CFM, le mag, la vie du pays Midi-Quercy.
Le mag du pays Midi-Quercy, une émission soutenue par le programme européen Leader et réalisée à CFM Caylus. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous dans ce mag du pays Midi-Quercy. On vous parlera patrimoine aujourd'hui à travers la publication d'un ouvrage et donc une série de conférences initiées par le service inventaire du patrimoine du pays Midi-Quercy. La thématique, c'est la belle époque dans l'est de Tarn-et-Garonne. Mais en première partie de ce mag du pays Midi-Quercy, on vous emmène à Bioule, plus précisément au château-école de Bioule, qui est lauréat de la Fondation Patrimoine. Pour la Fondation Patrimoine, Amandine Maga-Legal va tout nous dire. Bonjour Amandine.
Bonjour.
Vous êtes chargée de mission régionale pour le Lot et le Tarn-et-Garonne de cette Fondation du Patrimoine, que tout le monde connaît un petit peu. Lauréat de la Fondation Patrimoine, qu'est-ce que ça veut dire en fait ?
Alors en fait, le château de Bioule est lauréat de ce qu'on appelle la mission patrimoine qui est portée par Stéphane Bern. Vous la connaissez sans doute plus sous le nom de mission Bern d'ailleurs. La mission patrimoine, en fait, c'est un jeu du loto du patrimoine porté par la Française des Jeux qui permet de gratter des petits billets et de participer à la restauration du patrimoine de notre pays.
Pourquoi ce château de Bioule a-t-il été en lice et sélectionné ?
Alors en fait, la commune a candidaté sur le site de la mission Bern, directement en ligne, en complétant une fiche de candidature, puisque le château a besoin de restauration, notamment les fresques médiévales qui sont à l'intérieur et qui sont exceptionnelles. Et ensuite, nous, la délégation régionale ainsi que la DRAC Occitanie, avons fait remonter ce projet au comité de sélection nationale en appuyant sur son intérêt et sur la nécessité de l'accompagner.
Il y a déjà des fonds qui ont été débloqués. Il y a aussi un vote. On a jusqu'au 13 octobre pour voter et à ce moment-là, pour lui faire gagner encore plus de fonds pour cette rénovation à ce château-école de Bioule.
C'est ça. Alors, la mission patrimoine lui octroie une aide qui est actée puisqu'il est lauréat. On connaîtra le montant courant du mois de décembre. Mais en plus de ça, notre mécène national AXA, en fait, a présélectionné des projets qui ont été retenus par la mission patrimoine pour les faire participer à un vote grand public. Et il se trouve que le château de Bioule a été sélectionné au titre de la grande région sud-ouest. Donc il y a trois projets. Il faut voter pour le château de Bioule et lui permettre de bénéficier d'une aide supplémentaire de 100 000 euros.
Est-ce que vous pouvez nous le décrire un petit peu ce château ? Il est château-école, justement.
Oui, alors le château de Bioule, c'est un château du Moyen-Âge, tout en briques. Il est assez atypique parce que c'est vrai qu'il ne ressemble pas au grand château en pierre de taille comme le château de Bruniquel qu'on connaît plus, on va dire, sur le territoire. Mais il n'en reste pas moins très important. Et il se trouve en fait que la commune l'a racheté pour y installer l'école du village. Et c'est toujours le cas, donc c'est-à-dire que les enfants de Bioule ont la chance immense d'étudier dans ce cadre exceptionnel.
Mais ils n'ont pas froid dans un château du Moyen-Âge, quand même ?
Alors, il a été adapté, évidemment, notamment les salles de classe qui se situent en partie autour de la cour et au rez-de-chaussée. Mais non, tout ça a été aménagé exprès pour pouvoir accueillir les élèves. Tout est prévu pour. Mais le château, en plus de ces salles de classe, contient en fait des peintures médiévales qui sont exceptionnelles, notamment les neuf preux qui sont dans la grande salle qu'on dit des chevaliers et une chapelle qui est quasiment intégralement peinte.
Des fresques, oui, en couleurs. Alors les couleurs sont un petit peu passées, mais quand on y a accès, on peut voir qu'elles sont encore remarquablement bien conservées. Elles ont été rénovées, elles ont eu un chantier assez dramatique dans les années 50, je crois. Il y a une deuxième restauration qui a été faite il y a là quelques mois, un an ou deux, tout au plus, pour essayer de repasser derrière le ponçage de ces dernières années 50, une fresque médiévale. C'est hyper atypique, hein.
Elles sont très belles, c'est vrai qu'on n'imagine pas que des peintures qui ont cet âge-là en fait, puissent être encore aussi éclatantes. Dans la salle des preux, on voit bien les jaunes et les rouges qui ressortent, et dans la chapelle, c'est vrai qu'on est saisi quand on montre de voir ces décors qui sautent aux yeux et qui sont encore tellement magnifiques. Et pour le coup, vu leur âge, quand même plutôt très bien conservés. Mais ils nécessitent d'être encore un petit peu pris en charge.
C'est en particulier pour ces fresques que la mission patrimoine va investir ?
Tout à fait. Donc il y a toute une partie de restauration des corps peints, mais aussi des restaurations de maçonnerie extérieure, de baies, puisque évidemment, pour conserver les fresques, il faut aussi conserver la structure qui les protège. Et c'était important d'avoir une restauration un peu plus globale.
Le slogan de la Fondation du patrimoine, c'est « Donnons un avenir à notre histoire ». Vous faites ça au quotidien, Amandine ?
Tout à fait. Le rôle de la Fondation du patrimoine, c'est d'accompagner les propriétaires, qu'ils soient privés ou publics, dans la restauration du patrimoine, qu'ils soient protégés au titre des monts historiques ou pas, ou non protégés, que ce soit des cathédrales, des châteaux, mais aussi des lavoirs, des moulins, toutes sortes de patrimoine, même le patrimoine naturel. Donc on nous connaît principalement pour avoir accompagné la collecte de restauration de Notre-Dame de Paris. Mais en fait, on fait ça au quotidien. Il y a plein de projets qui sont aidés, que ce soit sur le Tarn-et-Garonne ou même sur la région. C'est notre rôle.
Il y a du potentiel en Tarn-et-Garonne, en Pays Midi-Quercy.
Il y a du potentiel, oui, tout à fait.
Il y a de quoi faire, il y a des fonds à récolter encore, c'est ça?
C'est ça, il y a beaucoup de patrimoine à aider et c'est vrai qu'on mérite peut-être à être plus connu sur le département. Pour ça, on a aussi besoin de bénévoles qui nous aident, nous salariés, sur le terrain. Donc si vous êtes intéressé pour devenir bénévole à la Fondation du patrimoine, il ne faut surtout pas hésiter à vous rapprocher de nous pour qu'on puisse en discuter.
Et alors, ça consiste en quoi être bénévole à la Fondation du patrimoine ?
Alors, c'est avoir un secteur défini, donc un territoire, et puis aller à la rencontre des propriétaires, donc des communes ou des propriétaires privés qui ont du patrimoine à restaurer, pour discuter des actions de la Fondation, comment nous, on peut les aider justement dans ce dispositif. On sait que c'est difficile de restaurer le patrimoine parce qu'on a souvent peur aussi de ne pas faire les choses comme il faut, ça coûte cher, etc. Donc nous, notre but, c'est d'accompagner aussi les propriétaires, à la fois dans la recherche de fonds, mais aussi peut-être de les mettre en relation avec les bonnes personnes pour qu'ils puissent discuter de leurs projets.
Et puis il y a des concours, des appels aux dons.
C'est ça, il y a des collectes de dons qu'on connaît plutôt bien, où en fait on fait appel aux mécénats populaires, particuliers entreprises. On a aussi toutes sortes de mécènes nationaux et d'appels à projets nationaux. Et une fois qu'en fait le projet, on le connaît, on peut le présenter pour obtenir des fonds supplémentaires qui sont soit financés par des mécènes. On a par exemple Total Energy, on a AXA, on en a plein d'autres. On a aussi des appels à projets nationaux spécifiques, par exemple sur le patrimoine roman, sur le patrimoine naturel. Donc il ne faut pas hésiter à venir à notre rencontre pour qu'on puisse discuter de tout ça et qu'on puisse vous aider au maximum.
Et si on est propriétaire, comme là par exemple ce château école de Bioul, qui est donc propriété de la municipalité, a fait appel à vous et donc lauréat de cette fondation patrimoine, vous allez financer en grande partie sa rénovation. Il y a aussi en plus un vote avec votre partenaire AXA. Donc une fois que tout ça c'est fait, est-ce que le château école de Bioul va vous devoir quelque chose?
Alors absolument pas. En fait, le but, nous, est de venir en renfort, puisque les monuments publics, notamment, obtiennent des subventions publiques, que ce soit de l'État, de la région ou du département, mais souvent, en fait, ils ont un reste à charge qui reste extrêmement conséquent. Par exemple, le château de Bioul, c'est plus de 1 300 000 euros de travaux, ce qui est énorme. Et une fois qu'on déduit les subventions, il leur reste encore à financer plus de 500 000 euros. Une commune de la taille de Bioul et n'importe quelle commune, c'est très difficile à supporter. Donc nous, la Fondation, on vient en support de ça, sachant que les donateurs, quand il y a une collecte, peuvent défiscaliser leurs dons. Et on prélève après nous des frais de gestion sur ces dons qui sont de 6% pour pouvoir ensuite faire fonctionner notre structure, etc.
On Vous retrouvez plein d'infos sur le www.fondation-patrimoine.org, sur le www.portailpatrimoine.fr. C'est pour donner un avenir à notre histoire que cette fondation se propose donc de lever des subventions comme là pour ce château-école de Bioule. Alors on l'a déjà dit, le château est lauréat de la mission patrimoine et il y a en plus un vote à faire jusqu'au 13 octobre. On a jusqu'au 13 octobre pour voter pour le château, pour qu'il y ait encore une nouvelle salve de subventions. Comment on fait, Amandine ?
Alors, il faut se rendre directement sur le site d'AXA France. Vous le verrez, c'est sur la première page. Il vous faut choisir la région sud-ouest et sélectionner le château de Bioule, qui est donc en concurrence avec deux autres projets, un en Charente-Maritime et un dans les Pyrénées-Atlantiques. Mais c'est bien sûr pour le château de Bioule que l'on va voter. Et donc, effectivement, le vote est ouvert jusqu'au 13 octobre. Donc, il ne faut pas hésiter à voter, à faire voter ses proches et sa famille pour supporter ce beau projet de restauration.
Et si on veut faire une visite auditive du château de Bioule pour mieux se rendre compte de pourquoi on va voter, il existe des capsules du patrimoine, des émissions depuis CFM Quélus réalisées par le service inventaire du patrimoine du pays Midi-Quercy. On a suivi le dernier chantier de restauration des fresques médiévales incroyables donc de ce château de Bioule. Ces capsules du patrimoine sont à réécouter en podcast sur le site de cfmradio.fr. Tapotez capsules du patrimoine dans votre moteur de recherche et votez donc pour plus de subventions pour la rénovation de ce château. C'était Amandine Maga-Legal qui nous donnait tous les détails pour participer donc à ce vote. Amandine, vous êtes chargée de mission régionale pour le Lot et le Tarn-et-Garonne pour cette fondation du patrimoine. Merci Amandine.
Merci à vous.
Corps contre corps entrelacé de tout, de toi, de nous, de moi. Corps contre corps encore lassé, l'hiver sans froid, l'hier en joie. Mais que restera-t-il quand tout sera fébrile? Que restera-t-il? Restera-t-il quand tout sera fébrile? Que restera-t-il de nous?
CFM, c'est le MAG, la vie du pays Midi-Quercy.
Deuxième partie de ce MAG du Pays Midi-Quercy. On continue à parler patrimoine. On parle de la belle époque à l'est de Tarn-et-Garonne à travers la publication d'un ouvrage du service inventaire du patrimoine du Pays Midi-Quercy notamment. On est avec Sandrine Rueffli. Bonjour.
Bonjour.
Pour parler de cet ouvrage donc, qui vient d'être publié. Vous êtes là en train d'entamer une série de conférences autour des travaux que vous avez menés. Quand je dis vous, ce n'est pas que le service inventaire.
Effectivement, c'est pas que le service inventaire. On est quatre auteurs à avoir rédigé cet ouvrage. Donc, il y a Carole Staniski du service inventaire, moi, Sandrine Rueffli, et puis une part importante de l'ouvrage, c'est Amélie Boyer, qui est photographe à la région Occitanie. Puisque cet ouvrage qui, comme on l'a dit, parle de ce tournant, la belle époque, ce tournant du 19e, début du 20e siècle, hein, jusqu'à la veille de la Première Guerre mondiale, est illustré d'environ 200 photographies. Et on a eu la chance d'avoir aussi en collaborateur Emmanuel Moreau, conservateur des antiquités et objets d'art. C'est le fruit de notre travail d'inventaire. Notre travail d'inventaire, c'est dans un premier temps étudier, Et puis ensuite faire connaître, et c'est par le biais de cet ouvrage aussi, entre autres, et les conférences qu'on va faire de façon associée à la sortie de l'ouvrage, que l'on fait connaître le travail d'inventaire.
Combien de temps de travail là ?
On va dire plusieurs années de travail sur le terrain, et puis on en profite d'ailleurs aussi pour remercier le propriétaire, parce que sans qui on ne peut pas étudier véritablement leur patrimoine s'ils n'ouvrent pas les portes de leur maison.
Qu'est-ce qu'on y trouve dans cet ouvrage ?
Alors, on y trouve évidemment beaucoup d'architecture, mais beaucoup d'architecture, du mobilier, et puis aussi on a essayé d'incarner cette architecture en parlant de personnes. Voilà, d'incarner en parlant des personnes qui vivaient dans ces maisons, dans ces architectures, durant cette période de la Belle Époque. Et puis, l'architecture, voilà, c'est une enveloppe, mais c'est aussi une enveloppe qui accueille des personnes qui y vivent. Donc voilà, toute l'importance aussi de parler de ces personnes et personnages. Voilà.
Après, c'est pas de la mise en scène fantasmée, vous basez sur des...
Complètement, puisque là, on a dit qu'il y avait tout un travail sur le terrain, mais il y a aussi, c'est un travail qui est croisé avec le travail qu'on mène en archive, hein, toutes les recherches que l'on peut faire sur l'histoire de ces maisons, sur l'histoire de ces personnes qui vivaient là. Donc, c'est le fruit de ce travail mené de front.
La Belle Époque, vous avez dit, c'est un tournant historique, c'était un renouveau complètement.
Effectivement, c'est une période de renouveau, de marche vers la modernité, voilà, au tournant de ce 20e siècle, hein, juste, on l'a dit juste avant la Première Guerre mondiale. Et on parle de cette société qui est encore une société rurale, mais qui se met véritablement, enfin à l'est de Tarn-et-Garonne, mais qui se met véritablement en marche vers cette nouveauté et oui, on verra des robes de soirée, on pourra les voir dans cet ouvrage, on parlera aussi du progrès agricole, de toutes les tensions qu'il y a pu avoir aussi entre l'Église, l'État, cette Troisième République, on trouvera toute cette histoire. Enfin, en tout cas, toute cette histoire. La petite histoire de cette partie de Tarn-et-Garonne qui fait partie de la grande histoire, évidemment.
C'est plus reculé ici, hein. On n'est pas à Paris. Hein.
Il y a une différence. C'est la pleine période, cette période d'un point de vue stylistique, architectural. Enfin, pas seulement architectural, mais au niveau de artistique, plus largement. C'est la pleine période de l'art nouveau. En Tarn-et-Garonne, nous ne sommes ni à Nancy ni à Paris. L'incursion comme ça de l'art nouveau est assez mince ici. on va la retrouver ça et là, dans des vitraux, dans certains objets, dans des boucles de ceinture, par exemple, du mobilier, mais ce n'est pas foisonnant comme ça peut l'être au nord de la France.
Vous allez proposer donc cet héritage architectural de la Belle Époque à l'est de Tarn-et-Garonne à travers une série de conférences. Alors on va vous voir le 8 octobre du côté de Montauban, le 25 octobre à l'abbaye de Beaulieu de Ginals, ou le 5 décembre au théâtre Le Florida de Selfond, une conférence illustrée où vous allez montrer les photos directement que vous avez fait en partenariat donc avec Amélie Boyer, la photographe de la région, et pouvoir parler à travers une série d'exemples très concrets de vos travaux de recherche.
Exactement. On va présenter l'ouvrage, évidemment, et puis on va montrer à travers une série d'images, effectivement, l'architecture, le mobilier, que ce soit une malle de menuisier ou encore, on l'a dit, ces robes de sortie, ces robes de soirée. Et puis, on va distiller ça et là la vie du le quotidien, une partie du quotidien de ces Tarn-et-Garonnais et des architectures qu'on n'est peut-être pas qu'on connaît d'extérieur, certains châteaux, certaines maisons ou devant laquelle on passe bien souvent au quotidien et qu'on ne perçoit même plus parce que justement ça fait partie de notre environnement, de notre quotidien. Donc on essaiera d'apporter un éclairage sur ces éléments-là. Voilà, donc on vous invite à venir nombreux à ce moment-là durant ces conférences. Il y a une des conférences, celle du 25 octobre à l'abbaye de Beaulieu, où l'axe est ciblé sur la photographie. Elle s'appelle « L'œil du photographe de la Belle Époque à nos jours ». Et là, on aura la chance aussi d'avoir avec nous Amélie Boyer qui nous parlera de son travail. Et nous, on apportera au travers de fonds photographiques conservés, entre autres aux archives départementales, on apportera la vision qu'ont pu avoir ces photographes de ce territoire en cette fin du 19e siècle et début du 20e siècle.
C'est un ouvrage qui est scientifique, mais qui est aussi largement accessible à tous. Vous l'avez rédigé comme ça ?
Oui, on l'a voulu comme ça. On a voulu que ce soit, évidemment, comme on le disait tout à l'heure, basé sur des sources, hein, évidemment. Ça, c'est le fruit de notre travail d'inventaire, enfin, une partie du travail d'inventaire. Et puis, on a voulu que ce soit riche, mais que ce soit accessible à tous, que ce soit très illustré. Ça fait partie aussi, c'est une charte de cette collection, qui est une collection nationale qui s'appelle « Images du patrimoine », d'avoir énormément de photographies. Amélie Boyer a fait environ 800 photographies. Il y en a 200 qui ont été sélectionnées. Et toute une partie de l'ouvrage... plus de la moitié de l'ouvrage où on présente des édifices, on l'a dit, hein, des édifices, mais à travers ces photographies.
La Belle Époque, c'est la thématique du pays d'art et d'histoire du pays Midi-Quercy, justement, grâce à vous, grâce à cet ouvrage que vous avez passé de longs mois, voire de longues années à réaliser. Ça fait quoi d'avoir fini, de le tenir entre ses mains? Vous êtes en train de le feuilleter, Sandrine? Ouais.
C'est plaisant. C'est plaisant. On a un peu du mal à réaliser pour l'instant, mais voilà, au fil des mois et des conférences et des rencontres avec aussi les habitants. C'est aussi en faire part aux habitants ou personnes qui vivent sur ce territoire qui est plaisant. Voilà, et d'en parler. Là, on réalisera peut-être un peu plus.
Bah pour ce faire, il faut venir à vos prochaines conférences. Par exemple, on l'aurait dit, le mercredi 8 octobre, à la Société archéologique et historique à l'ancien collège de Montauban, ou bien le 25 octobre à l'abbaye de Beaulieu, à Ginals, ou encore le 5 décembre au Florida de Selfond. Pour trouver plein d'infos sur le site internet du Pays Midi-Quercy, cet ouvrage, où est-ce qu'on peut l'acheter?
Alors, pour l'instant, il sera disponible d'ici un mois en librairie. Mais pour l'instant, on peut l'acheter en ligne sur le site patrimoine@larégion.fr. Voilà, on peut le commander par ce biais-là, via Internet.
ouvrage écrit notamment par vous, Sandrine Ruffly, en tout cas pour le service inventaire du patrimoine du pays Midi-Quercy, avec Carole Stanitsky, avec Emmanuel Moreau du Conservatoire des Antiquités et Objets d'Art de Tarn-et-Garonne. C'est avec vous, Sandrine, qu'on en parlait aujourd'hui. Merci beaucoup.
Merci.
Le MAG du pays Midi-Quercy, c'est tous les lundis à midi, rediffusion à 17h et à 21h, et en podcast sur le site cfmradio.fr.